À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
Lyon Première.
Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique le samedi de 11h à midi avec vous Sylvie Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne sortante, socialiste, vous avez une vraie connaissance de notre territoire, vous avez eu de nombreux mandats, vous avez été adjointe au maire de Lyon, conseillère régionale, et vous ne vous représentez pas, vous nous direz peut-être pourquoi, et avec vous, c'est l'occasion de parler évidemment de l'Europe, qui est un scrutin qui passionne pas encore les foules, mais peut-être qu'on va pouvoir donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller voter. D'abord, et vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Alors, on en a une qui est assez lyonnaise, élargie au sens large. Je sais que vous connaissez bien le lieu. Le 6 avril 44 avait eu lieu la terrible rafle des enfants de la maison d'Izieux. 44 enfants, 7 adultes qui avaient été déportés, une seule survivante, Léa Fellblum, qui est décédée depuis. Je sais que vous connaissez ce lieu, certainement peut-être dans le cadre de votre mandat régional. Est-ce que pour vous, célébrer ce 80e anniversaire, c'est quelque chose qui est important, qui a du sens? Est-ce que la mémoire aujourd'hui, savoir d'où l'on vient, c'est nécessaire pour comprendre où on va?
Merci de votre invitation. Oui, je connais très très bien la maison d'Izieux. J'y suis allée plusieurs fois, que ce soit en campagne ou hors campagne d'ailleurs, et toujours accompagnée avec énormément de gens convaincus qu'il était important de maintenir ce lieu de mémoire, de le développer. Il y a eu quelques inquiétudes à un moment donné aussi sur son avenir, donc je suis très très contente que les choses aient évolué. Et c'est particulièrement important avec ce 80e anniversaire de dire que les risques existent toujours. On est dans un monde où la haine, l'antisémitisme continuent d'exister de façon extrêmement féroce par le biais surtout aussi des réseaux sociaux qui entraînent l'anonymat et donc une forme d'invisibilité des propos. Et cela, il faut continuer de se bagarrer. C'est valable en France, où cette idéologie continue de perdurer, mais c'est aussi valable dans l'Union européenne et dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit tous rassemblés pour à la fois faire ce lieu de mémoire quelque chose d'important et en même temps qu'on dénonce toutes ces idéologies et l'antisémitisme ambiant.
Mais c'est vrai qu'il y a des actualités récentes, y compris à Lyon, qui ont vu à la fois des moments de grande tension entre les communautés. Le contexte international n'aide pas forcément. On a aussi perdu un certain nombre de personnes et forcément, de fait, ceux qui étaient des témoins vivants de ces périodes disparaissent au fur et à mesure. Vous parlez de transmission et de mémoire. Comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre encore plus actif? Vous avez évoqué rapidement le fait que la pérennité de cette maison n'était pas évidente. Mmh. Qu'est-ce qu'on doit faire? On parle peut-être de la maison de Montluc, par exemple, de la prison de Montluc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces lieux soient toujours plus vivants et adaptés peut-être aux jeunes générations, y compris pour qu'elles comprennent comment ça marche?
Je crois que sur leur adaptation comme lieu, il y a un vrai travail d'actualisation au nouveau mode de communication. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur le lieu lui-même. Ce qui me fait plus de soucis, c'est est-ce qu'on continue dans le parcours scolaire des élèves d'avoir cette référence à ces idéologies, comment elles sont nées, comment elles ont perduré, comment elles ont été déflagratrices dans le monde. Et si justement on a ce travail de transmission dans tout le parcours scolaire. Je crois que c'est très très important et ça forme des adultes qui sont conscients des risques et qui les évitent et se battent contre ces risques.
Et la pédagogie, c'est aussi Absolument. Au cœur de tout ça et c'est ce qu'on va essayer de faire, y compris quand on parlera d'Europe. Alors, une autre actualité un peu nationale, mais qui nous concerne tous dans notre quotidien et parce que ça a un impact, parce que ça vient aussi notamment de notre histoire ici sur le territoire avec ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Et on sait qu'en ce moment, il y a de grandes discussions autour de tout ce qui se passe avec la pollution au PFAS, avec Daikin, avec Arkema, etc. Il y a une loi qui a été votée il y a quelques jours qui vise justement à interdire ces substances, alors sans forcément tomber dans le côté un peu technique de cette loi nationale que vous n'avez pas peut-être forcément suivi. Est-ce que face à ce type de pollution, l'élu que vous êtes, que vous avez été, l'élu local, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Les élus aujourd'hui de la métropole de Lyon essayent de réagir, de s'en emparer. Il y a eu des plaintes d'élus de collectivités. Est-ce que sur ce sujet, il y a un vrai débat, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai risque peut-être pour les populations y compris?
Oui, je suis effectivement pas en mesure, moi, d'être l'experte qui va vous dire s'il y a un risque. Il y en a un, mais quel est le niveau de risque? Ça n'est pas exactement comment je vois les choses. Alors, vous avez indiqué cette loi, c'est une loi nationale. Première remarque, c'est important qu'elle existe. J'ai vu aussi les dérogations qui ont été liées à certains lobbies. On y reviendra peut-être au plan européen. Donc, bon, elle est un peu entamée, mais elle reste une loi nationale. Et je pense qu'il faut, de mon point de vue, réagir plus loin et plus fort. Et ça, ça passe par le biais de réglementations européennes. Et on travaille depuis très très longtemps au Parlement européen, dans les institutions européennes, sur les questions de pollution et sur les questions, par exemple, de produits chimiques. On a depuis longtemps une directive qui s'appelle la directive REACH, qui parlera certainement à certains d'entre vous, qui réglemente l'utilisation et le développement des produits chimiques, qui est en cours de réévaluation, de réforme. Et donc je pense qu'il faut atteindre ce niveau-là aussi pour que tous les États membres soient concernés par le même type de réglementation. Sinon, si on réagit seulement au plan national, il y a un signe qui est très fort, hein, je n'en disconviens pas, mais il faut que ce soit un signe qui soit au-delà du national. J'espère que, par exemple, ma collègue Muriel Laurent, qui va être probablement élue, enfin qui
maire
sera élue,
maire de Feyzin,
qui est évidemment particulièrement concernée à cet égard, sera particulièrement sensible à ce genre d'enjeu.
Alors, vous évoquiez effectivement la notion de lobby, c'est-à-dire qu'il y a eu sur ce sujet, au moment de la loi, pour ne pas citer une très 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 grande entreprise dont le siège est sur la métropole de Lyon, qui fabrique des poils, qui a essayé de montrer que peut-être il y avait derrière un enjeu sur l'emploi. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. J'évoquais le cas de la métropole de Lyon et cette vallée de la chimie. On sait que la vallée de la chimie aujourd'hui, c'est presque 20% à un moment de l'activité économique, un certain nombre d'emplois, etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est un élu local et qu'on doit gérer cette difficulté entre l'emploi qu'on doit préserver, l'attractivité d'un territoire et en même temps des risques pour une population? Vous voyez, c'est un peu ça l'enjeu derrière.
Absolument, oui. Bon, moi, je ne suis plus élu local, donc je ne réagis pas tout à fait de la même manière parce que justement, je n'ai pas cette proximité directe et je ne suis pas l'élu, par exemple, de Feyzin ou de Saint-Fond. Mais de mon côté, comme législatrice européenne, j'essaye effectivement d'être sensible à cette lutte contre les polluants, quels qu'ils soient, donc avoir ce travail de précision au plan européen, tout en tenant compte et en rencontrant effectivement des groupes d'intérêt, des lobbies, appelez-les comme vous voulez, qui viennent m'exprimer leurs difficultés ou la manière dont ils voient les choses. Après, c'est le libre arbitre de nous, comme députés européens, qui ne sommes pas justement directement confrontés à un enjeu vraiment direct de population, savoir comment on équilibre les choses correctement.
Alors, on va en reparler beaucoup de la mécanique européenne, du rôle du Parlement, de pourquoi c'est un enjeu, ces élections. Je disais que vous êtes députée européenne sortante et vous ne vous représentez pas. Pourtant, je sais, on en a parlé ensemble, que c'est un mandat passionnant, incroyable, extraordinaire, le troisième mandat européen. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment à ne pas vouloir vous représenter ?
Je vous confirme que c'est sans doute le meilleur mandat du monde, au sens où on est au cœur d'enjeux absolument majeurs, on vient d'en citer quelques-uns, et puis parce qu'on a une très grande liberté d'action, et donc on peut acquérir, si on s'intéresse vraiment à ce mandat, si on y travaille, ça fait beaucoup de si, mais je pense que c'est absolument indispensable quand on veut être un élu correct, vraiment c'est un mandat extraordinaire. Je ne me représente pas parce que, voilà, je vous l'avais dit, j'ai fait 3 mandats, c'est 15 ans de ma vie à travailler énormément.
Vous avez été vice-présidente du Parlement.
J'ai été vice-présidente du Parlement au deuxième mandat, vice-présidente de mon groupe au premier et chef de ma délégation pendant la moitié de ce mandat. Donc j'ai exercé pas mal de responsabilités. Et justement, je me dis que, à mon âge, il faut aussi qu'on transmette le flambeau, qu'on fasse monter des plus jeunes générations. Et c'est ce qui va se passer avec la liste sur laquelle que je soutiens. Donc je suis très très contente de faire cette transmission. Je ne suis pas poussée dehors. Vraiment, je crois que c'est vraiment un choix tout à fait personnel et volontaire que j'assume en totalité.
Ouais, alors c'est d'autant plus intéressant parce que on reviendra un peu sur votre parcours, mais engagé depuis un certain nombre d'années, on va dire.
Merci de le dire.
Voilà, et quand on est... C'est pas un secret pour les gens, mais ça veut dire de persévérance, de fidélité, de conviction. Quand on est aussi engagé comme ça politiquement, et ce que je veux dire, c'est que souvent pour côtoyer les élus, il y a une difficulté parfois à savoir s'arrêter entre guillemets. Alors, je sais que vous avez peut-être bien connu, par exemple, quelqu'un comme Gérard Collomb, auquel on pense régulièrement, mais qui n'avait peut-être pas su, à la fin, peut-être bien transmettre comme il aurait souhaité ou s'arrêter. C'est souvent difficile de renoncer à un mandat. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la politique, c'est d'abord un engagement, des convictions, et c'était pas forcément un métier, entre guillemets?
C'est jamais un métier, en fait. La politique, c'est un engagement, c'est un travail au sens où on doit produire de la réflexion, on doit produire des textes, on doit répondre aux besoins de nos concitoyens. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Je l'ai jamais fait de cette manière-là. Mais oui, ça reste une fonction. Donc, on est soumis au suffrage universel. Et donc, ça peut s'arrêter à tout moment. C'est pour ça qu'il faut, je crois, avoir un équilibre de vie, un équilibre personnel où on est, et c'est mon cas, extrêmement engagé. Le mandat européen, c'est quand même 4 jours de ma vie à Bruxelles, 3 ou 4 jours de ma vie à Bruxelles, 4 jours à Strasbourg. Et c'est le reste du temps beaucoup de travail. Donc, c'est un équilibre de vie entre le travail et le reste, ce qu'il faut préserver. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez... Je crois qu'on y arrive un peu mieux quand on est une femme que quand on est un homme politique.
Eh ben, on va reparler de tout ça dans une deuxième partie de notre émission. On va découvrir un petit peu notamment le rôle du Parlement européen et l'enjeu de ces élections. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère, toujours avec vous, Sylvie Guillaume. Je rappelle que vous êtes députée européenne PS socialiste sortante, que vous ne vous représentez pas et vous venez il y a quelques instants de nous expliquer pourquoi ça ne change rien à vos convictions, à votre engagement et à votre envie de vous investir. Souvent, vous vous présentez d'ailleurs comme ça, je crois, sur votre site internet, comme une citoyenne engagée, une européenne convaincue et une militante des valeurs progressistes et humanistes. Ça fait pas mal et ça fait beaucoup, ça, non, comme conviction et comme charge.
Ah ouais, j'avais l'impression déjà de les avoir beaucoup résumés, donc c'est un travail qui est déjà assez compliqué pour résumer tout ça. Non, mais je pense que ça me correspond bien et en tout cas j'essaie d'être fidèle à ces valeurs-là dans mon engagement politique.
Et vous avez aussi une fidélité au Parti socialiste, parce que je crois que vous êtes toujours au PS, élu depuis un certain nombre d'années, on le disait. Vous avez été élu dans tas d'endroits, notamment dans le 9e arrondissement à Lyon, on l'évoquait, etc. Comment on s'engage un jour? Est-ce que vous vous souvenez du pourquoi vous vous êtes engagé la première fois en politique et pourquoi au PS d'ailleurs?
Bon, il n'y a pas un déclic comme ça d'un seul coup. Je me suis dit le matin, bah tiens, je vais aller m'inscrire au Parti Socialiste. Non, je viens d'un milieu extrêmement modeste, pas du tout politisé. Mais par contre, moi, je me suis beaucoup investie dès mon plus jeune âge sur la question de la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Je viens d'un milieu populaire, comme je vous l'ai dit, de région parisienne, donc avec des tensions assez fortes qui existaient déjà. Et donc, je me suis engagée sur cette thématique-là. Et puis, bah, le milieu associatif, l'engagement, à un moment donné, on se pose la question de savoir si on est en situation d'agir autrement et d'agir de façon peut-être un peu plus puissante. Et c'est là où on se tourne vers la politique. Donc moi, je suis rentrée au Parti Socialiste en 88, je crois. Et puis voilà, j'ai suivi mon chemin dans ces valeurs-là, où à la fois j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup appris de cette formation politique-là. J'espère lui avoir aussi apporté des choses dans mon parcours et d'avoir pu aussi mettre en perspective certaines générations pour prendre le flambeau.
Le Parti Socialiste qui a beaucoup changé, connu des hauts et des bas, etc. Je suppose que c'est pas forcément toujours évident quand on est fidèle à sa famille politique de voir ce qui reste ou ce qui ne reste pas du socialisme. Est-ce que c'est encore, je vais dire, un sujet d'avenir ou une famille politique qui a un avenir globalement?
Ah, vous verrez que oui. Effectivement, vous avez raison de dire qu'on a traversé des phases un peu compliquées. Moi, je suis devenue responsable fédérale du Parti Socialiste en 1993. C'est au siècle dernier. Mais c'était une époque très, très compliquée en termes électoraux. Et donc, on a pu remonter la pente et faire en sorte de reformuler un certain nombre de choses en interne. On a traversé des crises, souvent d'ailleurs des crises qui sont trop liées aux égos, au personnel. Donc, il faut aussi faire un peu l'abstraction sur tout ça. Et moi, je suis plutôt confiante sur les valeurs qui sont portées par cette formation politique-là, sur les solutions qu'elle propose, sur son intérêt à la fois sur les questions sociales et sur les questions environnementales, maintenant qu'elle est parvenue à joindre de façon assez... avec un bel amalgame. Et je trouve qu'il y a vraiment de l'avenir là-dessus, parce qu'on a une vision qui est une vision globale et générale, pas trop parcellaire, et ça me plaît beaucoup dans cette formation-là.
Je dis ça parce qu'il y avait eu pas mal de discussions. Je me souviens notamment la dernière fois, lors de la dernière échéance, dans le choix notamment de la tête de liste de Raphaël Guzman, y compris dans les discussions avec le PS. Je crois qu'Olivier Faure, à l'époque, le secrétaire national, avait été un peu précurseur. Finalement, c'était sans doute un bon choix pour votre famille élargie de la gauche.
Oui, oui. Et en plus, pour avoir fréquenté Raphaël pendant ses 5 ans, avoir fait campagne avec lui en 2019, il le dit lui-même d'ailleurs, il n'était pas un homme politique à ce moment-là, et il a ce qu'il a acquis pendant ces 5 ans fait de lui quelqu'un qui est un responsable politique et un leader d'opinion extrêmement fort. Et il a par ailleurs été un excellent député européen. Pour ceux qui doutaient à ce moment-là, à la fois de son engagement, de sa capacité à faire sortir des idées et à mener à bout un certain nombre de combats, je crois que ceux-ci, maintenant, doivent être convaincus de l'intérêt qu'il a porté à ce mandat. Et je pense qu'il a un très très bel avenir comme député européen, c'est manifeste, et peut-être... Soyons fous pour autre chose.
On en reparlera, il ne faut pas brûler les étapes, on va voir ce qui va se passer. Mais visiblement, pour l'instant, la tendance est assez favorable, puisqu'il est bien placé, y compris sur la partie gauche élargie. Mais on reviendra un petit peu sur ces enjeux. Vous parliez de votre engagement sur un certain nombre de causes. Je voudrais y revenir avant qu'on rentre concrètement dans ce qui se passe au niveau européen, notamment sur, évidemment, le droit des femmes et les questions migratoires qui ont été des sujets d'actualité nationale et locale. Je ne sais pas par lequel on peut commencer. Peut-être revenir, parce qu'il y a là aussi un lien avec l'Europe, sur la question migratoire. La loi immigration telle qu'elle a été évoquée a provoqué des débats houleux, des scissions dans les familles politiques. C'est un tout petit peu retombé, mais avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette question elle a été bien appréhendée? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire comme type de loi pour régler peut-être de vrais problèmes?
Très sincèrement, bon, mes collègues députés français et sénateurs français seraient plus aptes à parler de cela, mais ce que moi j'en ai perçu, c'est que c'était une loi, la 29e ou 30e, je crois, depuis ces dernières années, qui partait d'un postulat et qui ne répondait pas du tout à ce postulat ou à ces difficultés. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que, par exemple, le pouvoir a cherché à ce qu'un certain nombre d'articles soient censurés derrière. Donc, franchement, je pense que c'était une mauvaise manière de régler une situation ou de travailler à une situation qui peut poser des questions et qui peut être instrumentalisée, d'ailleurs, beaucoup dans l'opinion publique. C'est un peu pareil au plan européen, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler à ce qu'on appelle le pacte asile-migration, qui est un travail de 4 ans. Moi, je me suis engagée particulièrement sur un des textes qui compose ce pacte asile-migration. Et le constat que j'en fais, pour le résumer, mais à grands traits, pardon, c'est de considérer qu'on part d'un diagnostic des difficultés que rencontrent les États membres dans l'Union face à des pressions plus ou moins importantes d'entrée de ressortissants étrangers, et on trouve de mauvaises solutions. Donc, au final, il y a, je crois, un vrai risque sur les droits fondamentaux, il y a un vrai risque sur la manière dont les États vont se comporter à l'avenir, il y a un vrai risque sur la solidarité dans l'Union pour aborder la question de l'arrivée des personnes étrangères. Et donc, ces textes, là aussi, au plan européen, ne seront pas adaptés à la problématique. Alors, je suis un peu embêtée de dire ça, parce que mon groupe va voter pour. Et moi, je vais voter contre, probablement, la plupart de ces textes. Donc, je suis un peu en décalage avec mon groupe, mais c'est pas grave, j'assume, parce que j'ai travaillé là-dessus depuis très très longtemps, et malheureusement, les guillemets, solutions qui sont proposées ne vont pas résoudre les questions qu'on se pose.
Alors justement, parce qu'on voit bien que c'est un des enjeux, notamment sur ces élections qui arrivent, quand on entend notamment Jordan Bardella ou le Rassemblement National, on a l'impression que c'est le sujet de l'Europe, or il y en a beaucoup d'autres, mais on sent bien qu'il y a une question sur les déplacements de population, qu'ils soient volontaires, pas volontaires, que tout ce qui va se passer en termes de changement climatique va amener de toute
Absolument.
Façon des mouvements qui sont inéluctables.
C'est déjà le cas d'ailleurs.
Ce qui est déjà le cas. Donc la question, elle n'est pas de se dire il faut pas, voilà, mais c'est comment on le traite. Or, on a l'impression que pour l'instant, effectivement, et vous l'évoquez, en termes de solidarité, en termes de mesures prises, on n'a pas encore soit pris totalement la mesure, soit su faire face à ces questions dans la dignité et le respect des droits humains. Comment vous imagineriez les bonnes solutions pour ce problème?
Alors, je vais prendre une précaution oratoire, c'est que, comparativement à d'autres, moi, je suis pas une no-border. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse ne pas réglementer les choses ou pas réguler ce qui est en train de se passer dans le monde. Je pense que, voilà, il y a des choses qui existent. La mobilité humaine, ça existe. Ça existait il y a des millénaires et ça existera dans les millénaires aussi. Parce qu'il y a, malheureusement, dans le monde, vous l'avez évoqué, des catastrophes climatiques ou des changements climatiques qui obligent les gens à bouger. Et puis, il y a aussi les guerres, des discriminations, des violences qui existent, qui poussent les gens à partir. Et je ne crois pas qu'on quitte chez soi simplement un matin en se disant ben voilà, je vais partir. Donc ces phénomènes-là existent, ça sert à rien de les instrumentaliser. Je pense que là où on se place nous en termes de réflexion, c'est de considérer que comme ce phénomène existe, il faut essayer de le réguler et faire en sorte justement que les responsabilités soient partagées. Et je prends un exemple, si on se dit le meilleur moyen de freiner l'arrivée sur le territoire européen, c'est à la frontière extérieure de mettre tout le monde en détention, je suis pas sûre que ce soit franchement très intelligent, parce que on risque d'avoir une multiplication de centres de détention, comme on en connaît parfois en Italie, comme on en connaît surtout beaucoup en Grèce, et comme on en connaît aussi après que les gens aient essayé de traverser la Méditerranée. Méditerranée qui est quand même le plus grand cimetière du monde, avec les gens qui se sont noyés. Donc, soit on réagit comme ça, en disant, ben voilà, la seule solution, c'est on freine à la frontière et on s'occupe pas des droits humains, soit on essaye de trouver d'autres solutions qui seront des solutions réglementées, comme par exemple les questions de voie légale. Comment on accueille les personnes, comment on traite leur situation, comment on vérifie si ils ont le droit ou pas d'entrer sur le territoire, et si les pays d'accueil ont quelque chose à leur proposer. Nous sommes un continent qui vieillit. On a de moins en moins d'actifs. C'est un peu moins valable en France, mais prenez l'Italie par exemple, particulièrement touchée par les questions de pression migratoire. C'est un pays qui vieillit énormément et qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin de gens qui le rejoignent. À tel point d'ailleurs que Madame Meloni, qui voulait faire un blocus et éviter que quiconque arrive sur le territoire italien, quand elle est devenue présidente du Conseil, maintenant fait recours à 452 000 personnes étrangères pour pouvoir venir travailler en Italie.
Donc il y a quelque chose.
Voilà, il y a un principe de réalité et il y a un principe à un moment donné de comment on s'exprime et on crée des voies légales, contrôlées, régulées, qui font que justement on n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans la discrimination, on n'est pas dans la violence et on n'est pas surtout dans l'instrumentalisation des peurs. Je veux pas citer la personne que vous avez citée tout à l'heure dans votre propos, mais il ne propose aucune solution. Lui et son parti, aucune solution, sauf de l'invective, sauf de la peur. Donc il faut surmonter cette peur, il faut proposer des solutions.
Mais elle est, entre guillemets, entendable et compréhensible quand on est aujourd'hui dans une société un peu fragilisée, dans un contexte économique délicat, lorsque les personnes, comme ça, elles-mêmes se sentent un peu soit rejetées, soit fragilisées. On peut comprendre que l'autre ou l'extérieur soit vécu parfois comme quelque chose qui vient perturber son quotidien ou prendre la place d'eux. Vous voyez, c'est ces fameux arguments.
Oui, ce fameux bouc émissaire,
voilà,
bien sûr.
On dit que quelque part, il y a la place pour accueillir tout le monde. Michel Rocard, il y a un temps, vous citez 1988,
pas.
Avait dit, et sa phrase avait été tronquée d'ailleurs,
oui,
on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France prendra toute sa part,
absolument.
C'est ça la vérité. Comment est-ce qu'on peut prendre notre part et comment l'Europe peut prendre sa part?
Alors vous avez tout à fait raison de dire que personne ne dit, je crois maintenant, il faut accueillir tout le monde. Enfin, si certains sans doute le disent, mais en tout cas, ce n'est pas raisonnable. Mais je pense que Rocard avait raison en disant il faut que nous y contribuions de façon solidaire. Vous savez, pour revenir sur les peurs que vous évoquiez et l'opinion publique vis-à-vis des questions de migration. Si vous regardez à la plupart des sondages, les tests d'opinion, la question de la migration revient quand même assez bas dans les sujets de préoccupation des gens. Les vrais sujets, c'est le niveau de vie, c'est le pouvoir d'achat, c'est comment on chauffe, comment on mange, comment on soigne, comment on fait que nos gamins vont à l'école et ont un parcours éducatif qui leur convient et qui les met en perspective. C'est ça, ce sont ces sujets-là qui sont importants pour les gens. Et trouver des boucs émissaires au travers de la migration, moi je trouve que de la part du Rassemblement National, c'est vraiment de la faiblesse d'esprit et de la paresse.
Derrière, il y a aussi la question du coup de la solution, de la mutualisation. C'est-à-dire que l'Europe, et vous allez certainement parler bien mieux que moi, c'est quand même toujours à la fois... Et pour vous, je suppose, une espérance, un espoir et un vrai moyen de faire, parce qu'on est peut-être plus fort, plus intelligent et plus capable à plusieurs. C'est ça l'idée de l'Europe au départ quand même.
Oui, je crois que c'est assez bien résumé sur l'ambition de l'Union européenne. Vous ajoutez à ça l'harmonisation par le haut des droits et des conditions de vie. Et je pense que vous aurez fait une belle boucle sur l'ambition de l'Europe.
Alors comment est-ce qu'on explique, si la réalité est celle-là, qu'aujourd'hui, alors on est quand même à 5-6 semaines des échéances, on n'a pas l'impression que ça passionne les foules, on n'a pas l'impression que les gens comprennent ou veulent s'y intéresser. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça intéressant et pour montrer l'enjeu fondamental pour les générations à venir, que sont ces élections européennes?
Pour les générations à venir et pour celles qui existent encore maintenant, puisque vous savez, ça ne se voit pas effectivement, mais l'imprégnation de la politique européenne, des décisions européennes, c'est dans notre vie quotidienne. Prenez la question de l'emploi et de la formation en France, pour parler de notre pays, il est totalement dépendant et financé par les fonds européens qui viennent en aide aux gens qui sont en recherche d'emploi, etc. Donc vraiment, c'est du quotidien. Pour ne citer que cet exemple, on pourrait prendre l'exemple de la PAC aussi, et la politique agricole commune, bien connue ces dernières semaines. C'est vrai qu'on a quelquefois du mal à faire valoir les enjeux européens dans le quotidien de nos concitoyens, mais il y a des choses extrêmement concrètes qui sont directement dans notre vie quotidienne, qui viennent de l'Union européenne. Prenez la question du soutien à la formation et à l'emploi, ou bien encore la politique agricole commune, qui a fait vraiment l'objet de beaucoup de discussions ces derniers temps. Donc, l'Europe, c'est le quotidien. Malheureusement, c'est assez invisible. D'abord parce que les élus sont assez invisibles dans la politique nationale. On les voit assez peu sur les plateaux. Et puis parce qu'il n'y a pas non plus ce relais très très fort des médias tout au long du mandat européen.
Oui,
on va commencer à parler très sérieusement des enjeux européens maintenant, mais on est à quelques semaines du scrutin, alors qu'il faudrait quelque chose qui soit dans le continuum. Donc moi, je plaide depuis des années pour une pédagogie d'abord qui commence avec l'éducation. J'y reviens parce que nos enfants doivent apprendre les éléments cruciaux de l'impact de l'Union européenne, et tout au long de notre vie, nous devons bénéficier d'informations et de cette façon concrète qu'a l'Union d'être dans nos vies quotidiennes. Et ça, c'est, je crois, très très important.
Est-ce que c'est pas aussi un peu le symbole, ces élections, de quelque chose d'un peu plus délicat sur la vie politique, à savoir que tout devient plus compliqué, y compris à l'échelon local, et on est dans une permanente simplification des choses. C'est-à-dire que ce combat de la décision politique difficile et de la simplification, vous voyez, peut-être que c'est ça qu'on abordera dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Sylvie Guillaume. Je rappelle que vous êtes députée européenne PS sortante, que vous ne vous représentez pas et que on était en train de parler de l'enjeu, de la complexité aussi parfois, j'allais dire, de la vie publique et de la vie politique. Et peut-être que les élections européennes en sont un peu le symbole. C'est-à-dire qu'on a quand même des choses qui sont compliqué, et en même temps une nécessité dans un monde de réseaux sociaux, de médias, d'une simplification. Comment est-ce qu'on résout cette quadrature du cercle, en quelque sorte?
C'est une question assez fondamentale, et d'ailleurs j'utilise ce type d'argument quand je parle en réunion publique ou quand je parle avec des gens. C'est-à-dire que, surtout quand on parle de la question européenne, souvent les gens nous disent « c'est très très compliqué ». Ce qui est vrai, il y a une forme de complexité dans la prise de décision, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités au plan européen. Mais sans sortir en disant « c'est compliqué », je trouve que ça n'est pas suffisant. Il faut vraiment indiquer que oui, il y a une forme de complexité, mais si on simplifie à outrance les enjeux, on ne répond pas non plus à ce qui est important pour nos concitoyens. Donc il faut trouver le bon équilibre, effectivement, en disant « c'est compliqué, mais on va vous expliquer ». Mais il ne faut pas non plus trouver des solutions de simplification à outrance, parce que là, on est là aussi dans une forme de paresse intellectuelle. Et l'Union, oui, ça a un côté compliqué. Quand vous parlez à des structures du moyen de monter des dossiers européens, chacun vous dira « mais c'est affreux, je préfère renoncer plutôt que faire un dossier européen ». Certes, mais en même temps, c'est plus contrôlé, il y a moins de coulage financier. Donc il faut trouver, sur tous les sujets européens, à la fois cette dimension d'explication, sans complètement mettre derrière nous le fait que, oui, ce sont des processus un peu compliqués, complexes, et qu'il faut appréhender.
Et qu'il faut aussi peut-être prendre l'habitude de respecter le citoyen, y compris l'intelligence du citoyen.
Absolument.
Qui est capable de comprendre.
Exactement.
Mais c'est
ça.
Une responsabilité, alors qui a été peut-être partagée à un moment par les médias, mais qui a aussi peut-être été celle des politiques, c'est-à-dire de garder le cap de l'explication de la complexité, de ne pas faire des choix forcément faciles. Tout ça, c'est, vous avez été confronté aussi à ça dans différents choix, à un moment de garder un cap de vos convictions tout en ne cédant pas à la facilité d'un truc qui serait plus facile à être compris.
Oui, oui. Enfin, probablement, il y aurait sans doute plein d'exemples dans notre vie de parlementaire. Moi, j'ai surtout souvenir quelquefois de cette façon un peu de simplifier les enjeux. Tout à l'heure, on parlait de la question des lobbies. Moi, j'ai reçu souvent, après je garde mon libre arbitre et je rends public toutes les rencontres que je fais. Mais j'ai quand même souvenir d'avoir eu en face de moi des lobbies qui faisaient des chantages à l'emploi, par exemple. Qui venaient me voir en me disant, quand on avait encore des circonscriptions, à tel endroit, Anne Guillaume, si vous faites tel type de législation au plan européen, ça va se traduire par tant de milliers ou tant de centaines d'emplois en moins dans votre circonscription. Et là, alors pour le coup, ça avait le mérite, entre guillemets, de la simplicité, mais ça ne pouvait pas se régler par cette simplicité. Donc il a fallu à chaque fois remettre de la complexité dans la décision. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la fonction que nous exerçons.
Alors, on parle beaucoup d'un enjeu crucial, on l'a dit, pour nous, etc., y compris pour les jeunes générations. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre et qu'est-ce qu'il y a derrière, d'abord peut-être d'un point de vue très pratique, comme élection concrète ce 9 juin? C'est l'élection du Parlement européen, on est bien d'accord.
Absolument.
À quoi sert en fait le Parlement européen? Puisque vous êtes parlementaire, vous allez pouvoir nous le synthétiser de manière évidente.
Alors oui, on vote entre le 6 et le 9 dans l'Union, le 9 en France, juin, et on élit les parlementaires européens. Nous serons 720, 81 en France, on était 79 et on vient d'obtenir deux élus de plus en rapport avec notre poids de population. Et donc, vous allez élire des parlementaires qui, à l'instar de ce que font les parlementaires français, font la loi au plan européen et entrent en confrontation, en négociation perpétuelle avec les représentants des États membres, représentés donc par les représentants des États, qui, eux, représentent un peu l'intérêt général, tandis que nous voulons représenter l'intérêt communautaire, l'intérêt européen des citoyens.
Parce qu'il y a souvent des confusions sur les institutions.
Absolument.
Européennes, hein, on ne sait pas. D'ailleurs, si on devait résumer de manière simple, entre le pouvoir de la Commission européenne, dont on voit beaucoup parce qu'elle est peut-être plus personnalisée parfois, et le Parlement européen, comment ça se situe? C'est un peu différent de notre mode de gouvernance.
Oui, absolument.
Français.
Absolument. On est là dans une sorte de trilogue. Bon, le terme est utilisé pour d'autres choses, mais utilisons-le ici, là. La Commission européenne, c'est une représentation des États membres, mais pour la conception de la loi. Donc, la Commission européenne est la seule à pouvoir rédiger des projets, mais elle ne s'en tire pas comme ça, puisque derrière, les deux autres institutions, Parlement et Conseil, travaillent sur les projets qui sont élaborés par la Commission, les projets de loi qui sont élaborés par la Commission, les amendent, et ensuite, une fois que leur position respective est acquise par le vote, rentrent en discussion pour arriver à trouver des accords. Il y a quelque chose qui est assez unique dans le fonctionnement européen, c'est que comme aucun parti, aucune des formations, aucun groupe n'est majoritaire au sein du Parlement européen, il faut trouver toujours des accords. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle des concessions, un consensus qui est quelquefois un peu vilipendé dans la vie politique française, parce qu'on se dit, ouais, ben, s'ils font un petit pas, ça veut dire qu'ils ont trouvé des trucs pas clairs. Non, pas du tout. On n'empêche pas de faire valoir nos convictions quand on trouve un accord. Simplement, on fait un pas un peu plus petit pour cette réglementation que celui qu'on aimerait faire si on était majoritaire soit seul. Donc ce consensus, il est quelquefois mal perçu, mais je crois qu'il fait avancer considérablement les choses pour les citoyens européens.
Une des questions sans doute aussi en termes de visibilité, parce qu'on était tout à l'heure en train de se demander pourquoi c'était plus difficile à comprendre, c'est qu'aussi les partis, enfin les groupes n'ont pas les mêmes noms, les partis se mélangent un petit peu, donc c'est peut-être un peu plus compliqué à lire. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde ce qui se passe en France au niveau des différentes têtes de liste, il y a une question qui a beaucoup agité à un moment la gauche, hein, puisque vous êtes au PS, je vous en parle à vous. Le fait que notamment, par exemple, les écologistes soient partis tout seuls, que la gauche rassemblant le PS, Place Publique, etc. Est-ce que ça aurait pas été mieux, peut-être, puisque on entend souvent aussi que au niveau du Parlement, ce qui compte, c'est de créer un groupe puissant et que du coup, il faut rassembler beaucoup. Est-ce que c'était pas mieux de se rassembler dès le départ, par exemple?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Au Parlement européen, on n'a pas d'intergroupe. C'est-à-dire qu'on est dans nos groupes et les formations politiques nationales, les délégations élues se reconnaissent dans un groupe. Ce que vous évoquez, c'est, d'une certaine manière, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, ressembler à quelque chose qui, en 2022, a existé en France? Moi, à titre personnel, je regrette beaucoup le choix des écologistes au plan français de ne pas avoir réussi à donner une suite à la proposition qu'on avait faite au PS d'avoir une liste qui nous rassemble. Parce que je trouve qu'on partage énormément d'éléments. Alors, il y a des choses qui sont très identitaires, sociales pour nous, plus écologistes pour eux, c'est assez normal. Mais chacune des formations a fait un trajet, un parcours politique qui nous rend assez similaires avec nos identités, bien sûr. Ce aurait été plus difficile pour anticiper une question que vous ne me poserez peut-être pas, d'être d'accord avec LFI qui, au plan européen, ne partage, et au plan français d'ailleurs, ne partage pas du tout les mêmes enjeux sur la politique internationale notamment, mais je ne peux pas détailler. Mais franchement, ça aurait eu, comme on dit, de la gueule d'avancer de cette manière-là, et surtout, ça aurait permis, je crois, d'avoir quelque chose de plus puissant face à un risque que je considère comme majeur, qui est le risque d'avoir énormément d'élus du Rassemblement National dans le futur Parlement européen. Je crois que ça aurait été utile.
Alors sur ces enjeux, puisque vous les évoquez au sein de la NUPES, enfin de la gauche élargie, je me souviens avoir assisté à différents meetings des uns et des autres, et l'argument qui semble le revenir assez souvent, c'est que peut-être aujourd'hui la liste que mène Raphaël Glucksmann ne se mais pas peut-être assez sur les priorités de la transition écologique, du climat. C'est un peu cette espèce d'opposition peut-être un peu factice au sein de la gauche, entre une gauche un peu plus sociale, une gauche un peu plus écologique. Est-ce que vous avez l'impression que le débat, l'enjeu de l'urgence climatique est vraiment pris en compte et que c'est bien à cette échelle qu'il doit être traité?
Ah, je n'en ai pas que l'impression. J'en ai la certitude que nous avons franchi des étapes assez significatives s'agissant de la prise en compte de l'écologie et de la lutte contre le changement climatique dans notre formation politique. Et vous allez voir dans les jours ou semaines qui viennent que ce sujet sera absolument prégnant dans les discours de notre liste. Et d'une certaine manière, il faut aussi savoir que si je reviens au plan européen, vous avez peut-être entendu parler du pacte vert, qui est un ensemble de textes qui travaillent sur la question environnementale et sur la lutte contre le changement climatique. Des textes très très concrets qui ont été présentés par la Commission européenne, comme je l'exprimais tout à l'heure, mais qui sont l'émanation de notre combat politique au Parlement européen pour faire valoir cette dimension et comme la nécessité d'agir de façon législative au plan communautaire, au plan européen sur ces sujets-là. Donc ça vient de nous. Ça vient de nous comme groupe politique avec les écologistes au Parlement européen.
Alors justement, pour essayer peut-être de convaincre, on parlait des jeunes générations, il se trouve que dans le studio aujourd'hui, on a une jeune femme qui s'appelle Gladys, qui est en terminale, qui s'intéresse à la vie publique et politique, qui va voter pour la première fois le 9 juin, ce qui n'est pas rien, de voter pour la première fois, donc ça deviendra la question Gladys de manière exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes qui vont voter pour la première fois pour qu'ils mesurent bien l'importance et de l'enjeu et qu'est-ce qui pourrait, eux, leur parler peut-être encore plus qu'à nous, par exemple?
Alors, on est toujours tenté de dire qu'on va avoir un discours général en disant la construction européenne depuis tant d'années, c'est votre avenir, c'est là où se situent les enjeux européens. Ça me paraît pas super concret.
C'est un truc de vieux, voilà. Un peu, ça, non?
Non, pas seulement, parce que justement, ça parle aux générations futures. On vient de parler d'écologie et de changement climatique, donc on est vraiment dans ce tempo-là. Non, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus concret, qui est la question de la mobilité européenne, la mobilité internationale. C'est-à-dire, l'Union européenne, depuis 30 ans maintenant, permet au travers de Erasmus, maintenant devenu Erasmus+, de soutenir le déplacement des jeunes pour qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils se réalisent, qu'ils concrétisent leurs ambitions, qu'ils voient ailleurs s'ils y sont, pour arriver à trouver, à rencontrer d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes. Et donc ça, c'est extrêmement précieux, ce développement personnel que permet l'Union européenne à des jeunes gens qui se déplacent dans l'Union européenne, qui vont se former et qui vont rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement précieux. L'Union, c'est aussi ça. Et c'est pas que de la politique, c'est pas que de la philosophie, c'est un mode de vie qui, au travers de ce projet, de ce programme, fait que les jeunes gens se réalisent. Eh bien, il faut qu'on puisse multiplier ce genre d'exemple avec la jeune génération.
Se confronter, s'ouvrir à l'autre, c'est aussi comme ça qu'on fait des citoyens peut-être plus conscients et plus engagés. Alors, une question peut-être un peu plus personnelle, puisqu'on arrive doucement à la fin de cette émission. On a vu l'engagement qui était le vôtre, la passion qui vous anime sur ce mandat. Vous nous avez expliqué que donc vous alliez ne pas vous représenter. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire totalement autre chose ou comment on maintient l'engagement qui est le vôtre si on n'a plus de mandat, par exemple? Est-ce que vous avez des idées déjà de ce que vous allez faire après?
Vous savez, je vous l'ai indiqué, c'est un mandat extrêmement exigeant. Je ne m'en plains pas, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur mandat du monde. Je crois qu'il n'y a rien de mieux en termes de liberté et de capacité d'action. Mais voilà, c'est très prenant sur la vie personnelle et je pense que j'ai besoin de me retrouver aussi un petit peu avec ceux que j'ai probablement un peu négligés, ma famille et mes amis. Donc j'ai envie de reconstituer, de recultiver aussi ce monde-là. Je pense que j'aurai de toute façon toujours une activité militante qui ne sera pas une activité élective. Et puis, j'ai très envie de revenir à mes amours qui sont le milieu associatif. Et donc, j'espère que je pourrai mettre à profit ce que j'ai acquis et faire partager un certain nombre de compétences.
Ouais, l'engagement, ça ne s'arrête pas comme ça.
Non, hein. Jamais, je crois que je pourrais
Alors,
pas.
J'ai toujours deux questions pour terminer parce que ça m'intéresse, parce que je suis quelqu'un de curieux, mais n'y voyez pas malice. Sur le livre de chevet de mes invités, c'est que souvent, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on a le temps de faire parfois autre chose que ça, justement que de la politique. Comment est-ce qu'on s'en détache? Est-ce qu'on lit toujours des rapports compliqués ou est-ce qu'on a le temps de lire des choses plus divertissantes ou plus agréables qui vous emmènent un peu ailleurs?
Je dois avouer que c'est très très compliqué effectivement de faire de la lecture plaisir. Moi, je compense en faisant de la lecture. J'écoute des livres quand je cours, par exemple, ou quand je fais du sport. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que je suis malheureusement obligée de me consacrer majoritairement à des lectures utiles. Mais voilà, j'ai quelques livres de chevet auxquels je repense régulièrement et auxquels j'attache beaucoup d'importance. Et quand je pensais à cette question, je me suis dit que j'avais une affection particulière, par exemple, pour Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, que j'ai adoré.
Et ben voilà, on en sait un tout petit peu plus. Et puis, on a aussi, puisqu'on est à la radio, évidemment, une question musicale. Et je vous ai demandé de choisir un titre pour se quitter en musique. Et qu'est-ce que vous avez choisi?
Ah, là aussi, je suis retournée à mes amours de jeune femme. Et j'ai choisi The Clash, London Calling.
Voilà, je ne sais pas si ça parlera aux jeunes générations, mais à nous, en tout cas, ça nous parle. Merci infiniment, Sylvie Guillaume, d'avoir été présente à notre micro pour comprendre un peu mieux les enjeux des prochaines échéances. Je crois que c'est important et ça fait partie aussi de notre rôle. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1ère, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr. Écoutez votre radio Lyon 1ère en direct sur l'application Lyon 1ère, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
Lyon 1ère.